France Musique.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre Allegretto Junior. Alors, imaginons un pays des instruments de musique. Et dans ce pays, il y a un village, le village des instruments à cordes. Et dans ce village habitent trois grandes familles, les familles des instruments à cordes. Pincer, ce sont guitare et clavecin, frotter, ce sont avec l'archet, et frapper. Dans notre Allegretto Junior, on se penchera sur la troisième des familles. Aujourd'hui, la famille des instruments à cordes frappées. Et on va commencer avec un instrument très simple qui s'appelle le bobre. Un arc en bois, une corde tendue, une baguette frappe la corde et la calebasse vidée et séchée sert de la caisse de résonance. Et oui, il fallait tout un début pour devenir un piano. Alors l'instrument, le bobre, l'instrument de La Réunion, est devenu merimbau au Brésil. Il est devenu indissociable d'ailleurs de la capoeira, l'art martial africain, entre le jeu, la danse et le combat. Et c'est vraiment une seule corde qui est frappée avec une baguette. Alors pour devenir évidemment les pianos, les clavicordes, les pianofortes et les dulcimers. Alors on commence vraiment avec la musique classique. Maintenant, voici la Symphonie Ré majeur de Léopold Mozart pour orchestre et dulcimer avec l'orchestre de chambre de Munich et placé sous la direction de Hans Stadelmeier. Et le dulcimer est joué par Karl-Heinz Stieghaus. Et imaginez ces instruments très primitifs africains, on va dire très multipliés. écoutions l'Andante, extrait de la symphonie en ré majeur pour orchestre et dulcimer de Léopold Mozart. Au dulcimer, c'était Karl-Heinz Schickhaus. L'orchestre de chambre de Munich était placé sous la direction de Hans Stademeyer. Alors ici, c'était le dulcimer, c'est-à-dire une sitar avec des cordes tendue sur la table d'harmonie, qui était frappée avec deux petits marteaux. Avec deux petits marteaux, si vous le regardez bien, on peut donc frapper à la fois maximum deux cordes. Mais quand on regarde nos mains, on peut frapper 10 cordes à la fois. Alors il faut juste inventer un instrument avec un doigt qui appuie sur une touche, qui déclenche un marteau et qui frappe une corde. Et le piano forte est né. Les cordes sont moins tendues, les marteaux sont emballés dans le cuir et c'est le feu d'artifice sonore. Bon, je simplifie un peu tout ça, mais en fait c'est exactement ça. Ce sont les 10 petits marteaux qui frappent les cordes. Voici le troisième mouvement du concerto pour deux pianofortes de Carl Philipp Emanuel Bach avec Alexei Lyubimov et Yuri Martinov. Thank you. nous écoutions Allegro assai, extrait du concerto en fa majeur de Carl Philipp Emanuel Bach, dans une version pour deux pianoforte, deux corps qui soutiennent très bien deux pianoforte, cordes et basses continues. Au pianoforte, c'était Alexei Lyubimov et Yuri Martinov, et c'était Manfred Huss qui dirigeait Haydn Sinfonietta de Vienne. Alors voici le prédécesseur de pianoforte. En fait, il s'appelle ça va vous faire lire, le rire Pantaleon, puisque son inventeur s'appelle Pantaleon Hebenstreit. Alors, Pantaleon, c'est une sorte de tympanon, c'est-à-dire une cithare, qui est, on va dire, qu'on a mis dans une caisse de clavecin, mais avec les cordes de luth, et qui est frappé avec des bâtons légers. Le pantaléon fait partie donc de la famille des instruments à cordes frappées. C'est Louis XIV qui a décidé, après un concert donné par justement Pantaléon Hebenstreit à Versailles, de donner à cet instrument le prénom de son inventeur, qui effectuait alors de nombreuses tournées dans toute l'Europe. Qui date de 1776, le pantaléon que vous allez entendre. Je vous propose d'écouter donc le presto de la sonate écrite exprès pour pantaléon par Carl Philipp Emanuel Bach. Et ici, le joueur de pantaléon, on dirait donc pantaléoniste, s'appelle Pierre Goy. C'était Pierre Goy qui interprétait le presto, le premier mouvement de la sonate pour pantaléon en mi mineur de Carl Philipp Emanuel Bach.
Kézako.
Écoutez.
Mais qu'est-ce que c'est?
Écoutez.
Mais qu'est-ce que
écoutez.
C'est?
Écoutez.
Kézako.
Écoutez.
C'est vrai?
Qu'est-ce que c'est?
Écoutez. Kézako. Voici notre Kézak à 11h17. On vous pose une question et vous avez trois possibilités. Donc, il y a une bonne réponse parmi ces trois possibilités. Vous pouvez nous envoyer votre réponse sur le site de francemusique.fr. Émission Allegretto. Alors, je vous présente un instrument un peu spécial, mais qui fait partie de la famille d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la famille des instruments à cordes frappées. Il s'appelle le luthéal. Et le luthéal, c'est pas vraiment un instrument, c'est surtout un mécanisme qui permet de reproduire la sonorité du clavecin, celle de l'harpe ou de luth, en combinant les uns et les autres aussi, celle du cymbalum. En tout cas, c'est un mécanisme qu'on met à l'intérieur du piano. Alors ce luthéal, Maurice Ravel l'a utilisé entre autres dans la Tzigane qu'on va écouter. Mais voilà la question de notre Kézak, dans quelle œuvre Maurice Ravel l'a utilisé en plus de sa Tzigane pour violon et luthéal? Est-ce que c'était dans L'enfant et les sortilèges? Est-ce que c'était dans L'heure espagnole, dans un autre opéra de Ravel, ou dans l'orchestration du tombeau de Couperin? Je vous repose la question. Dans quelle œuvre, en plus de la Tzigane de Maurice Ravel, Ravel a utilisé ce mécanisme qui s'appelle le luthéal? Est-ce que c'est dans L'enfant, les sortilèges, L'heure espagnole ou le tombeau de Couperin? Évidemment, dans l'orchestration, cherchez bien. On attend vos réponses sur le site de francemusique.fr, émission Allegretto. Et je vous propose donc d'écouter cette très belle Tzigane de Maurice Ravel pour violon et luthéal. Au violon, Sarah Nemtano. Au luthéal, Roman Descharmes.
version de la Tzigane pour violon et luthéal de Maurice Ravel. Au violon, c'était Sarah Nemtanou et au luthéal, c'était Romain Descharmes. Et un grand merci pour vos réponses sur le site de francemusique.fr, émission Allegretto. Alors d'abord quelques mots sur le luthéal et sur la Tzigane de Maurice Ravel, puisque c'est lui qui a écrit pour la première fois une œuvre pour violon et luthéal dédiée à la violoniste hongroise Jelin Arani. Elle a été exécutée le 15 octobre 1924 dans la salle Gaveau. Bon, les réactions étaient diverses. Les journalistes écrivaient cet instrument comme un instrument hybride qui prétend ressembler à la fois au cymbalum, clavecin et au piano et qui en réalité passe de la boîte à musique au chaudron. Il y avait d'autres journalistes qui parlaient d'un instrument trop peu connu encore, qui peut produire des sonorités délicieuses et variées. En tout cas, en 1925, Maurice Ravel emploie également le luthéal durant la première de quelle œuvre? Alors ce n'était pas l'heure espagnole, ce n'était pas l'orchestration du tombeau de Couperin, c'était bien la première de l'enfant et les sortilèges. D'ailleurs, l'instrument, c'est à la fois triste et à la fois, je trouve, passionnant, c'est que l'instrument original, c'est-à-dire le luthéal original qui était utilisé pour l'exécution des deux œuvres, c'est-à-dire la Tzigane et l'enfant les sortilèges, a disparu dans les flammes de l'incendie de la salle Gaveau et un nouvel instrument a été commandé en 1987 par le gouvernement français et qui est conservé au musée de la musique à Paris. Tout ça pour le luthéal et un grand merci pour vos réponses sur le site de francemusique.fr, émission Allegretto. Donc la bonne réponse c'est l'enfant et les sortilèges. On continue dans la famille des instruments à cordes frappées. Alors prenons le clavicorde par exemple. Le clavicorde qui est construit sur un fond rigide. Ce qui est très drôle, je trouve, que la table d'harmonie n'occupe que la partie droite de l'instrument. On peut donc voir le clavier à travers les cordes. Je vous propose d'écouter Keith Jarrett au clavicorde, et oui, Keith Jarrett au clavicorde, dans une pièce de sa composition qui fait partie de ses Book of Ways. Ici, c'est le tout dernier morceau, le numéro 19. Thank you.
Vous avez entendu cette sonorité très discrète qui ressemble à une guitare. C'était la sonorité du clavicorde. D'ailleurs, clavicorde, c'était l'un des instruments qui possédait Mozart dans sa maison à Salzbourg. Si un jour vous allez visiter la maison de Mozart à Salzbourg, il y a le clavicorde de Mozart. Ici, c'était le clavicorde de Keith Jarrett qui interprétait la 19e pièce de son album Book of Ways. Évidemment, le clavicorde fait partie des instruments de musique à cordes frappées qui remontent au tympanon médiéval et il est prédécesseur du pianoforte qui lui-même engendre le piano moderne. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas là. Retour vers les baquettes, puisque le départ de tout, ce sont les baquettes qui frappent les cordes. Voici les danses, trois des danses hongroises de Johannes Brahms, dans une version pour orchestre tzigane avec cymbalum, on y arrive, vers notre cher cymbalum. Vous allez voir, dès qu'on entend cymbalum, on se transporte en Europe centrale ou en Europe de l'Est, tellement cet instrument est authentique. Voici Ivan Fischer qui dirige l'orchestre du Festival de Budapest et nous allons donc écouter, si vous les cherchez, la 5e, la 19e et la 21e danse de l'opus V, petit O, grand O, des danses hongroises de Johannes Brahms.
Thank you.
Nous écoutions trois des danses hongroises magnifiques de Johannes Brahms. Toujours, quelle pêche ces danses hongroises. Donc la 5e, 19e, 21e, de toute façon, vous trouverez toutes les références de nos œuvres sur le site de francemusique.fr, émission Allegretto. Et c'était la version pour orchestre tzigane avec Cembalom. L'orchestre du Festival de Budapest était placé sous la direction de Ivan Fischer. Alors je sens que vous n'avez pas complètement profiter de Cembalom, qui fait évidemment partie de notre Allegretto Junior autour des instruments qui font partie de la famille des instruments à cordes frappées. Alors c'est Cembalom. Parfois il est tout petit, portatif, et parfois il est énorme. On l'appelle donc Cembalom de concert. Il est large et lourd. Il peut peser même 100 kilos et il possède jusqu'aux 123 cordes. Vous imaginez, il couvre à peu près 4 octaves et les cordes sont séparées en deux ou trois parties par 5 rangées de chevalets. Les maillots, parce que ça c'est très important, les maillots en bois sont recouverts de coton, de feutre et de peau de daim. En tout cas, il faut aller vite, très vite. Voici les virtuoses que j'ai trouvées dans le très beau et ancien disque qui s'appelle « Les 100 violentes tziganes » et il y a une improvisation qui m'a fait complètement craquer. Alors voici l'improvisation au Cembalom avec Józef Lendvai-Csosi.
absolument génial, je trouve. Le soliste s'appelle Oskar Okroš. J'espère que je le prononce bien. En tout cas, nous écoutions l'improvisation Sambalom. C'était le disque qui s'appelle Les 100 violons tziganes, qui était placé sous la direction de Jozef Lendvai Choshi. C'était un vrai bain de Sambalom sur France Musique dans notre Allegretto Junior à 11h53. Puisque aujourd'hui, nous sommes avec des instruments à cordes frappé. Alors prenons le piano à tangente. Bon, ça a l'air scientifique comme ça, mais enfin, le système est assez simple. Vous imaginez, donc, un clavier, la touche fait projeter une baguette de bois contre la corde, qui s'appelle tangente, et cette tangente fait vibrer la corde tout à fait librement. Bon, quand on relâche la touche, le son s'arrête. Je vous propose d'écouter un extrait d'un disque de Tobias Koch qui a enregistré les œuvres pour piano de Beethoven sur les instruments d'époque de Beethoven, comme Beethoven a pu les entendre. Alors je vous propose d'écouter Allegretto de son rondo en ut majeur de Beethoven pour piano à tangente. Et au piano, à ce piano à tangente, c'est Tobias Koch. Sont intéressants, je trouve. Un peu étouffé, nous écoutions Allegretto de rondo en ut majeur de Beethoven et au piano tangente, c'était Tobias Koch. Tout ça pour écouter évidemment le son du piano à queue. Le piano, vous le savez, c'est un instrument de musique à cordes frappées. Lorsqu'on joue une touche du clavier d'un piano, le basculement de cette dernière actionne une mécanique qui lance un marteau contre des cordes tendues sur un cadre grâce à des chevilles, d'où les cordes frappées. Alors, je vous propose d'écouter, vous allez voir, on va écouter des concertos pour un piano, deux pianos, trois pianos et quatre pianos. Je me suis dit, il faut qu'on en profite. Commençons par le BWV 1056, qui est un concerto pour un piano en fa mineur de Jean-Sébastien Bach. Voici Anna Vinitskaya. Nous écoutions le presto de BWV 1056, c'est-à-dire le concerto pour un piano en fa mineur de Jean-Sébastien Bach avec Anna Vinitskaya au piano et l'Académie de chambre de Potsdam. Il y a deux types de pianos modernes, vous les connaissez par cœur. Il y a les pianos droits dont le cordier est vertical et les pianos à queue qu'on vient d'entendre dont le cordier est horizontal. Alors ça c'était un piano, je me suis dit pour écouter la sonorité de deux pianos, il faut pas en rester là. Alors voici toujours le troisième mouvement, parce que c'est le final qui est le résultat de tout, je dirais. Voici donc le final du concerto pour deux pianos de Jean-Sébastien Bach. Cette fois-ci, Anna Vinitskaya invite au piano voisin Lyubka Hadigeorgieva. Thank you. Piano sinon rien, enfin en tout cas on va commencer avec les trois tout à l'heure. Ici c'était Allegro Assai du concerto pour deux pianos en ut mineur BWV 1062 de Jean-Sébastien Bach avec Anna Vinitskaya, Lyubka Hadzi-Georgieva et l'Académie de chambre de Potsdam. Alors évidemment la qualité des résonances dépend d'une grande partie de la table d'harmonie. La table d'harmonie est une partie très importante d'une façon générale pour la sonorité du piano. Elle consiste en une mince feuille de bois en planche de sapin ajustée derrière le cordier. Alors maintenant que vous pouvez l'imaginer, on va continuer avec le concerto de Jean-Sébastien Bach pour trois pianos, Yevgeny Korolev, Anna Vinitskaya, toujours là, et Lyubka Hadzi-Georgieva. Thank you. l'allègre final du concerto pour trois pianos, trois claviers de Jean-Sébastien Bach en ut majeur, BWV 1064, avec Yevgeny Korolyov, Anna Vinitskaya, Lyubka Hadzi-Georgieva. Ils étaient accompagnés par l'Académie de Chambre de Potsdam. Alors maintenant, on met ce disque de côté. Et je me suis dit, bon, puisqu'on a fait des concertos pour un, deux, trois pianos de Jean-Sébastien Bach, il faut que la boucle soit bouclée. Je vous propose d'écouter un disque qui date un tout petit peu, puisque vous allez écouter les noms des pianistes. C'est le concerto pour quatre claviers de Jean-Sébastien Bach, qui est la transcription du concerto pour quatre violons de Vivaldi, Hervé 580. En tout cas, voici, c'est une version absolument géniale, je trouve, Rudolf Kempe, Raphaël Kubelik au piano, Fritz Reger et Wolfgang Sawallisch. Et c'est Raphaël Kubelik qui dirige de son piano l'orchestre symphonique de la Radio Bavaroise. C'est pour voir les pianos, les quatre pianos ensemble, leur sonorité. Écoutez. Allegro du concerto pour quatre claviers, la transcription du concerto pour quatre violons de Vivaldi. Mais ici donc, signé Jean-Sébastien Bach, avec Rudolf Kempe, Raphaël Kubelik, Fritz Reger et Wolfgang Sawallisch. Et c'est Raphaël Kubelik qui dirigeait l'orchestre symphonique de la Radio Bavaroise.
Allegretto Junior, Denisa Kershova, France Musique.
Voici les invitations aujourd'hui pour vous. Ce sont les invitations
pour le Festival Musica, Festival international des musiques d'aujourd'hui, qui se déroule à Strasbourg du 16 septembre au 17 octobre. Et nos invitations sont pour Mini Musica, puisque aujourd'hui nous sommes dans Allegretto Junior. Et Mini Musica revient et accueille donc petites et grandes oreilles. Et nos invitations donc sont pour la Symphonie pastorale de Beethoven, samedi 18 septembre à 17h au Palais de la Musique et des Congrès à la salle Erasme, sous la forme d'un concert commenté avec Clément Lebrun. L'Orchestre Philharmonique de Strasbourg proposera donc une relecture joyeuse et participative de la Symphonie pastorale de Beethoven, l'occasion de décoder l'œuvre, l'histoire de la musique, les récits musicaux et l'acoustique. Allez-y, courez-y en famille avec des enfants. Donc, je vous répète que c'est le concert qui fait partie de Mini Musica à Strasbourg, samedi 18 septembre à 17h. N'hésitez pas, vous nous envoyez un petit courrier là sur le site de francemusique.fr. Émission Allegretto. Il est beau ce piano Erard de Yuri Martynov et quelle transcription signée Franz Liszt. Nous écoutions donc un extrait de la Pastora de la 6e symphonie en fa majeur de Beethoven. Et je vous rappelle qu'il nous reste quelques invitations donc pour Mini Musica et pour le spectacle de la symphonie pastorale de Beethoven en concert commenté le 18 septembre à 17h. N'hésitez pas à nous envoyer un petit courriel sur le site de francemusique.fr, émission Allegretto. Et nous avons aussi quelques invitations pour les Parisiens pour le premier concert jeune public de la saison de l'Orchestre National de France, ce dimanche à 11h au studio 104 de la Maison de la Radio avec l'énigme des portraits oubliés, avec la musique de Mozart, de Beethoven, de Schubert, de Tchaïkovski, avec Gaël Kimelindi de la Comédie Française, avec les musiciens de l'Orchestre National de France. N'hésitez pas aussi, vous nous envoyez un petit courriel sur le site de francemusique.fr, émission Allegretto. Donc c'est pour ce dimanche à 11h au studio 104. Le spectacle s'appelle « L'énigme des portraits oubliés » et c'est le premier concert jeune public de la saison de l'Orchestre National de France. On se quitte évidemment avec le dernier instrument à cordes frappées. Il s'appelle « Yangin », petite sitar chinoise que Mathieu Neveul et Jean-Baptiste Sagné ont intégré dans le tambourin chinois de Fritz Kreisler. Trois famille. Des instruments à cordes réunis, frappés, frottés et pensés, nous écoutions donc Mathieu Neveul au violon, à la contrebasse Jean-Baptiste Seigné et Lin Chin Ping au yangin dans ce tambour en chinois de Fritz Kreisler. Ainsi se termine notre Allegretto Junior. Merci d'être là avec nous. Merci à Emmanuel Morse-Duncan qui était à la technique, Arnaud Chapat à la réalisation, Maud Nouri, l'attaché de l'émission. Portez-vous bien, passez une très belle journée sur France Musique. Je vous retrouve demain à 11h. Alors à demain.
À réécouter sur francemusique.fr.